Eh
oh!
Eh
oh!
Ouais!
Eh oh!
Wow! Wow!
C'est le quartier qui parle!
C'est la ligne ouverte sur le quartier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Florine et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Radio Moulin. On va parler éducation populaire, service civique et engagement. Le 16 octobre dernier a eu lieu à la maison de quartier Les Moulins le forum de l'engagement Fête de l'éducation populaire dans le cadre de la semaine de l'éducation populaire à Lille. Cet événement était organisé par la Ligue de l'enseignement du Nord et le CRIJE, Centre régional information jeunesse des Hauts-de-France et la maison de quartier. Cette journée a permis aux associations d'éducation populaire de faire découvrir leurs actions à travers diverses animations. Plus de 50 offres de services civiques étaient également proposées. Pour cette occasion, la radio est venue armée de sa radio et de ses micros itinérants pour vous proposer ce reportage. Comme je l'ai dit, la journée était placée sous le thème de l'éducation populaire. Mais c'est quoi concrètement l'éducation populaire? Nous avons posé la question à Alice et Guillaume de la Ligue de l'enseignement, à Maxime chargé de projet au CRIJE et à Margot de la Croix-Rouge. On les écoute.
Alors, comment définissez-vous l'éducation populaire et quels sont, selon vous, ses principaux enjeux aujourd'hui?
Du coup, l'éducation populaire, pour moi, c'est une façon de compléter l'éducation classique qu'on peut voir à l'école, évidemment, et c'est d'encourager les citoyens à s'engager et à participer à la vie de la cité de plein de façons. Ça peut être par le milieu associatif, En fait, on est pour la formation tout au long de la vie et de plein de manières différentes. Donc pour moi, c'est ça. Et les principaux enjeux, c'est justement l'engagement qui est parfois un peu compliqué à avoir de plus en plus. Et du coup, de réussir à maintenir cet engagement auprès des jeunes et toutes les générations aussi. Voilà.
Alors l'éducation populaire, ça existe déjà depuis pas mal de temps. Je pense que les enjeux actuels sont les mêmes qu'il y a pas mal de temps. C'est la possibilité d'avoir un accès à l'éducation pour toutes et pour tous, sans aucune discrimination, sans aucune forme de rejet, et vraiment pour pouvoir éduquer à la citoyenneté tous ceux qui ont envie de l'être, quoi.
Quand on dit éducation populaire, il faut décortiquer deux mots, éducation et populaire. Populaire, c'est ensemble, c'est la société, c'est le peuple, c'est apprendre au quotidien avec notre environnement. Quand on dit éducation, c'est par toute forme de, participation, toute forme d'apprentissage, qui soit lu, entendu, qui soit touché, qui soit vécu. L'idée, c'est de pouvoir en faire, une force. D'augmenter déjà en autonomie, de pouvoir aussi, avec tous ces savoirs qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, dans notre entourage, de pouvoir aussi avoir un sens critique qui nous permet en fait de prendre des décisions justes avec toutes les informations nécessaires. Et ce sont des informations qu'on peut avoir dans notre entourage et pas forcément avec, l'école comme on l'entend, la scolarité. Donc c'est un peu apprendre à tous les âges, participer à tout, se documenter, se cultiver avec son environnement.
L'éducation populaire, c'est aller au contact du public et s'adapter un peu à son besoin, à ses envies et pouvoir proposer des choses qui soient accessibles, qui soient différentes de l'éducation qu'on peut avoir par d'autres biais et qui fassent passer aussi des messages et qui sensibilisent sur différentes thématiques.
Comment vous voyez l'avenir de l'éducation populaire? Comment est-ce que vous imaginez les nouveaux outils qu'on pourrait mobiliser?
Je pense qu'on peut s'appuyer sur plein de choses et c'est ce que fait la Croix-Rouge aussi en créant des jeux de société, en créant des outils avec la réalité virtuelle par exemple. L'idée c'est d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir parler des sujets qui nous importent et sur lesquels il y a besoin de sensibiliser. Donc effectivement on peut s'appuyer sur plein de choses.
Quelle est votre vision de l'éducation populaire dans 5 ou 10 ans?
C'est une dure question. je sais pas trop, j'espère que... qu'elle aura toujours sa place parce que évidemment c'est un peu incertain surtout avec les prochaines élections et la montée de l'extrême droite et tous ces enjeux là donc je pense que ce sera un petit peu compliqué mais en espérant que nous notre engagement sera toujours là et même si ça risque d'être un peu plus difficile et je pense que de toute façon ça existera toujours parce que parce que c'est un peu indispensable au fonctionnement de la société.
Et au niveau des ressources et financement, quels sont les principaux défis en matière de financement et de ressources pour les initiatives d'éducation populaire ?
Je dirais que c'est toujours réussir à avoir au niveau municipal, départemental, des personnes qui portent déjà l'éducation populaire et qui peuvent aussi influencer sur l'attribution forcément de financement. Mais c'est aussi donner plus de visibilité à sa façon d'agir, à sa façon de faire sur tout l'ensemble du schéma éducatif, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit toutes les centres de formation ou autres. Je pense qu'elle a déjà un enjeu de se faire connaître partout avant déjà de pouvoir se faire connaître partout et être inclus dans toutes les initiatives pour partager aussi des financements que, on va dire, l'institution a déjà et possède déjà.
L'éducation populaire est un outil précieux qui permet de dépasser les cadres formels que l'on a de l'idée d'éducation. Elle se veut ouverte à tous. Mais comment l'éducation populaire permet de favoriser l'inclusion et la diversité ? Maxence, reporter pour la Radio Moulin, a posé la question. Écoutons.
Bonjour, je m'appelle Guillaume, je travaille pour la Ligue de l'enseignement et je m'occupe du CRTA, c'est le centre de ressources du théâtre en amateur. Ma principale mission, c'est de développer les actions à destination des compagnies amateurs du département. Donc dès qu'il y a du spectacle vivant et des envies, des attentes ou des besoins des compagnies, moi je suis là pour les aider.
Alors bonjour, moi je suis Maxime Guilvic, je suis chargé de projet au Centre Régional de l'Information Jeunesse. Et aujourd'hui, on organise cet événement dans le cadre de la semaine de l'éducation populaire. Donc moi, à titre pro, j'organise, co-organise l'événement. Et je suis aussi là pour présenter pour les jeunes tout ce qui peut, en termes d'information jeunesse, les intéresser pour leur parcours.
Comment l'éducation populaire peut-elle promouvoir l'inclusion et la diversité dans notre société ?
Oula, question pas facile, c'est presque une question de dissertation ça. Vous avez 3 heures, retournez votre copie. Alors comment faire ? Avec des actions sur le terrain, quelles peuvent être multiples et variées. Hein. Si je parle de mon cas de figure, l'idée c'est de pouvoir par exemple prendre les arts vivants, donc le théâtre, le cirque, la marionnette par exemple, et pouvoir au travers de sujets d'actualité, laïcité, discrimination, inclusion, égalité homme-femme par exemple, réussir à porter ces sujets sur la scène pour pouvoir avoir un spectacle qui se voudrait militant, pouvoir déclencher chez le spectateur une forme de réflexion pour qu'en repartant de là, le spectateur puisse avoir des billes justement pour être... un excellent citoyen. Alors le problème c'est l'argent. Ça a souvent été le problème et ça l'est encore plus actuellement. Le gouvernement actuel n'est pas partant pour donner de l'argent aux différentes associations qui vont œuvrer sur le terrain. Les prochains budgets devraient tomber prochainement et visiblement ils sont pas augmentés mais plutôt revus à la baisse. Donc le premier problème c'est l'argent. Sans argent, il y a des actions qui sont difficiles, voire impossibles à mener. Et plus on touchera, enfin plus on aura d'argent, plus on pourra faire des événements de grandes envergures et forcément toucher un maximum de public.
C'est une vaste question parce que déjà quand on dit éducation populaire, on dit aussi participer. Quand on participe, on rencontre d'autres personnes. Et quand on rencontre d'autres personnes, eh bien on s'ouvre. On rencontre des parcours différents, on rencontre aussi des façons de penser différentes. Et moi, je pense que ça peut améliorer dans tous les cas les choses, en fait. Quand on dit aussi activité d'éducation populaire, on a tellement de... Comment dire ? Vous savez, en fait, on rencontre tellement de monde, on apprend tellement de choses qu'on va forcément vers la diversité, on va forcément aussi vers la tolérance et l'acceptation. Le fait d'avoir déjà des préjugés et lors d'une activité, se rendre compte que la personne, imaginons le groupe de personnes ou l'entité sur lequel j'avais des préjugés est totalement différente de ce que j'imaginais. En fait, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça aussi qu'on casse ces représentations. En fait, dans les formats, vraiment au niveau opérationnel d'éducation populaire, c'est souvent des activités en termes de groupe, c'est souvent des actions, c'est souvent des choses où on peut se retrouver dans un collectif et forcément nouer des liens. Et ça fait forcément moi partie de l'inclusion. Après si on dit inclusion, ça dépend si c'est social, si c'est économique. Je pense que inclusion sociale oui. Après éducation populaire et inclusion économique, faudrait faire des études là pour voir si le fait d'avoir des schémas d'éduc pop ça peut nous permettre de trouver un emploi, une insertion on va dire facile. Dans tous les cas, l'éducation populaire, c'est une culture, c'est une façon de penser, c'est une façon de travailler aussi. Et une personne qui est déjà un peu sensible à ça et qui veut aussi aller là-dedans, je pense qu'elle n'aura jamais trop de soucis à travailler pour des associations d'éducation populaire qui, je pense, de manière cyclique, recherchent toujours des personnes volontaires et bien sûr en phase avec ces valeurs-là.
L'éducation populaire est un terme qui englobe beaucoup de pratiques. Une d'entre elles peut s'incarner dans le service civique. Lancé en 2010 en France, ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans si la personne est en situation de handicap, de s'engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général. Il n'y a pas de conditions de formation ni de diplôme. 9 catégories de missions recouvrent l'intégralité de l'offre de service civique. Éducation, solidarité, santé, culture et loisirs, environnement, développement international et humanitaire, mémoire et citoyenneté, sport, intervention d'urgence en cas de crise. Pour cette deuxième partie de reportage, nous allons donc discuter service civique et engagement avec les différentes associations présentes sur les lieux. Alice, chargée de mission pour la Ligue de l'Enseignement, et Maxime, chargée de projet pour le CRIJ, nous expliquent plus en détail l'intérêt du service civique et le lien que ces missions ont avec l'éducation populaire.
Du coup, moi je suis Alice Floret, je suis chargée de mission vie fédérative à la Ligue de l'Enseignement. Et du coup, aujourd'hui, on a co-organisé cet événement pour la semaine de l'éducation populaire où on présente, on fait des activités de théâtre, on présente un peu ce que fait la Ligue et voilà. Les services civiques, c'est un super dispositif pour les jeunes parce que pour eux, c'est souvent une première expérience d'engagement et on sait que quand on s'engage une première fois, on a tendance à se réengager au cours de sa vie, en tout cas ça favorise et du coup on sait que ce sera des futurs acteurs de l'éducation populaire et c'en est en tant que volontaires puisqu'ils sont en lien avec les publics et souvent dans des associations, donc dans des structures qui prônent l'éducation populaire, donc c'est super chouette d'avoir des jeunes avec nous.
Quelles sont les formations et les soutiens offerts aux jeunes en service civique pour les préparer à leur engagement ?
Du coup, il y a des formations obligatoires en tant que service civique. Ça va être la formation civique et citoyenne sur 2 jours. Et ça va être sur des sujets... On les encourage vraiment à choisir les sujets qui les intéressent. Donc on va avoir laïcité, discrimination, vie associative, etc. Donc le but, c'est qu'ils s'informent sur ces sujets-là. Et puis après, il y a le PSC1 aussi pour l'aspect plus concret, donc sur les premiers secours, parce qu'on pense que c'est aussi indispensable au quotidien de pouvoir assister des personnes en danger si on se retrouve confronté à ça.
Et comment mobilisez-vous les jeunes autour des valeurs de l'éducation populaire ?
En fait, rien que le fait d'en parler dans l'animation, en fait, ça, les jeunes pratiquent ces valeurs-là. Et en fait, souvent, les jeunes qui... viennent sur ces ateliers-là, sont assez satisfaits parce qu'ils ont participé, parce qu'ils ont donné leur avis, parce qu'ils ont rencontré des gens cool, parce qu'ils ont passé un bon moment. Et en fait, ça, c'est déjà des valeurs, je dirais, fondamentales de l'éducation populaire, parce qu'on a de la diversité, on a de l'inclusion, on a aussi de l'apprentissage, on a de la participation par le volontariat, par l'envie d'être là. Après, je ne vous cache pas que dans ces activités-là, en général, c'est toujours un petit peu difficile de mobiliser le public. En fonction des thématiques, d'une thématique à une autre, on réussira à en mobiliser plus ou moins. Mais globalement, le public est difficilement mobilisable. Et quand on l'a, il est toujours assez satisfait des animations par lesquelles sont véhiculées ces valeurs.
Quel rôle, selon vous, jouent les volontaires en service civique dans les projets d'éducation populaire que vous mettez en place ?
Alors, notre structure, elle a pas forcément ici à Lille des volontaires en service civique, mais ils jouent un rôle fondamental parce que sur notre réseau, on a des ambassadeurs de l'information jeunesse et ils ont forcément un rôle déjà d'incarner en fait l'esprit de l'association, d'incarner aussi son futur et d'incarner aussi ce qu'on veut proposer au quotidien. Donc le rôle, il est forcément toujours cantonné au rôle de volontaire, mais il y a aussi une possibilité chez certains jeunes de pouvoir découvrir le milieu professionnel dans lequel on évolue. Et si un jeune justement est intéressé, motivé, et qui présente aussi des bonnes cohérences avec, imaginons, une ouverture de poste ou autre, eh bien, ça n'empêche pas que ce sont des jeunes aussi qui peuvent aller ensuite vers incarner nos valeurs à travers le salariat. Donc, C'est les piliers en fait des structures, je dirais, les volontaires. En tout cas, les structures d'éducation populaire.
Quelle action menez-vous pour encourager les jeunes à s'impliquer davantage soit dans le service civique ou enfin dans le volontariat ou dans l'éducation populaire de manière générale?
En fait, on multiplie les actions sur toute la région. On fait beaucoup de forums, on fait beaucoup d'événements où les jeunes peuvent venir s'informer, mais que ce soit aussi les professionnels qui peuvent aussi informer les jeunes. Que ce soit aussi quand les jeunes viennent chez nous et qu'ils s'informent sur ceci et cela, eh bien, avec un petit peu de curiosité, on peut leur parler de volontariat, de bénévolat, du rôle, du sens que ça peut avoir, que ce soit maintenant, mais que ce soit aussi pour après, pour leur parcours. Donc en fait, que ce soit au quotidien ou même nos actions, c'est le cœur de notre métier, c'est l'information jeunesse. Donc forcément, on va toujours, si un jeune est intéressé par l'engagement, en parler en long, en large et en travers pour donner aussi des connaissances. Après, action spécifique engagement, on peut en faire comme aujourd'hui. Mais sachant que l'information jeunesse, c'est tellement d'autres thématiques que ça reste une thématique ponctuelle dans notre année, par exemple, d'activité. Mais sinon, au quotidien, on rencontre plein de jeunes qui sont intéressés en fait par ces questions-là, qui n'ont pas prévu d'en faire un, mais qui ne sont pas contre l'idée de savoir ce que c'est.
Durant cette journée, une association proposait des sabliers de douche pour mesurer notre temps passé sous l'eau. Il s'agit d'Interface. Cette association permet au public de mieux gérer leurs démarches administratives quotidiennes liées aux thématiques du logement, de l'énergie, des transports, des services bancaires, des services postaux et de la consommation. On a discuté avec leur représentante du jour, on écoute.
Bonjour, donc moi je suis Aurore Clément, la directrice de l'association de médiation sociale Interface. Et donc je suis ici aujourd'hui pour ce forum puisqu'on va recruter des services civiques pour une mission en partenariat avec Iléo. Nous aujourd'hui les services civiques vont vraiment avoir un rôle complémentaire des actions des médiateurs sociaux qu'on emploie à Interface. Leur rôle, ça va vraiment être de diffuser des messages auprès des habitants de la métropole européenne de Lille sur tout ce qui est consommation raisonnable et raisonnée de l'eau, donc aussi bien en termes économiques qu'en termes écologiques.
D'accord, merci. Et comment, quelle action mettez-vous en place pour justement faire venir ces personnes qui vont s'engager en service civique?
Alors là, ça va être vraiment beaucoup de communication. Les services civiques sont jeunes, donc on va utiliser les réseaux sociaux, utiliser les différents partenaires qui les accueillent au quotidien. Puisque nous, aujourd'hui, on reçoit principalement des adultes, on n'accompagne pas directement de public jeune. Donc là, on va vraiment se baser sur notre réseau de partenaires.
Comme vous l'avez entendu précédemment, sur la question de l'éducation populaire, la Croix-Rouge était de la partie pour cette journée Forum de l'éducation populaire. Qu'est-ce que cette association propose en matière d'engagement ? On a demandé à Margot, leur salariée présente ce 16 octobre.
Je suis Margot, je suis salariée de l'unité locale de Lille de la Croix-Rouge, donc en tant que chargée de projet. À la Croix-Rouge à Lille, on a différentes actions qui sont menées par les bénévoles tout au long de la semaine et tout au long de l'année. On a des actions sociales qui concernent l'accueil du public, l'accompagnement alimentaire, l'accompagnement vestimentaire, la domiciliation postale, mais aussi l'accès aux droits. On a aussi des actions de protection de la population à travers les maraudes qu'on fait le dimanche et les actions de secourisme. Et puis on a des actions en lien avec la prévention et l'éducation, donc notamment les interventions dans les écoles, la formation aux premiers secours, tout ce qui est rétablissement des liens familiaux et aussi l'accompagnement scolaire, les cours de français, langue étrangère pour les adultes.
Ok, et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est là sur la fête de l'éducation populaire puisque on a un rôle auprès des jeunes et des enfants dans l'éducation, la prévention des catastrophes, la sensibilisation aux thématiques comme l'exil, la migration, comme les premiers secours qui sont un peu notre spécialité. Donc on intervient auprès de différents publics sur ces thématiques-là. Donc c'est important pour nous aussi d'être présents aujourd'hui pour parler de ça. Et puis plus globalement de parler d'engagement, donc, parce que la Croix-Rouge c'est aussi l'engagement sous différentes formes. Le bénévolat, puisque on est une structure bénévole, donc avec 300 bénévoles qui font tourner la structure à l'année. Mais en fait on a aussi d'autres formes d'engagement, donc avec le volontariat en service civique. On a aussi pas mal de stagiaires, donc des stagiaires qui vont de stages très courts à des stages long jusqu'à 6 mois. On a aussi des salariés dans l'unité locale, donc on a même des mécénats de compétences, donc voilà, on a toutes sortes d'engagements possibles à la Croix-Rouge, donc c'est aussi ce qu'on est venu montrer aujourd'hui.
Ok, et imaginons, on a envie de devenir bénévole à la Croix-Rouge, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il suffit de nous contacter via le site internet et de s'inscrire à une petite réunion en visio. Lors de cette réunion, on apprend les actions qui existent et comment on peut s'engager. Et puis ça nous permet après de vous proposer l'action qui peut vous correspondre à vos disponibilités, à vos envies. Voilà. En général, on demande de s'engager une demi-journée par semaine pour pouvoir voilà, faire tourner les actions correctement, mais ça dépend aussi du type d'action. Il y a aussi possibilité de s'engager comme bénévole ponctuel pour nos événements. Voilà.
Ok, et ça peut ressembler à quoi une mission de bénévolat chez vous ?
Bah, y a plein de missions différentes parce que ça répond aux différentes actions qu'on fait. Donc les actions sociales du quotidien, dans le cadre de l'ouverture de la structure, c'est du lundi au vendredi en journée. Donc c'est des demi-journées de 3 heures en général. Donc par exemple, il y a des bénévoles qui font de la distribution alimentaire, des bénévoles qui accueillent le public, des bénévoles qui font le tri et la distribution du courrier pour les personnes domiciliées. Pareil pour au niveau de l'aide vestimentaire. Donc il y a toutes ces missions qu'on voit au quotidien dans la structure, puis il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, l'accès aux droits ou l'accompagnement par les cours de français qui se font plutôt sur rendez-vous. Voilà, il y a plein de missions différentes possibles.
Dans le cadre d'une mission de service civique, chaque jeune est encadré et accompagné par un ou une référente. Véritable pilier pour la bonne conduite de la mission, ces personnes permettent aux jeunes d'avancer sur leurs projets, d'être guidés dans leurs tâches et de gagner en autonomie. Claire et Lucie, deux référentes de la mission locale de l'Île Avenir, étaient présentes au forum. Souleymane, reporter pour cet événement, s'est entretenue avec elle. Écoutons ses échanges.
Bonjour, moi c'est Claire Gallet, du coup je suis référente service civique pour la mission locale à l'Île Avenir.
Lucie Ouattrolo, également référente service civique pour l'Île Avenir.
D'accord, et donc vous accompagnez des personnes en service civique au sein de la mission locale. Et comment évaluez-vous aujourd'hui les compétences acquises par les jeunes dire à leur mission service civique ?
Du coup, on voit l'évolution déjà par rapport au début de leur mission. Donc on peut les évaluer par rapport à toutes les tâches qu'ils ont réalisées dans le cadre de leur service civique. Donc ce qu'on fait, c'est un bilan final avec eux directement en structure et on voit ce qu'ils ont pu du coup développer en termes de qualité, donc plutôt savoir-être, mais aussi en termes de savoir-faire.
Vous avez quelque chose à rajouter, vous ?
Elle a répondu parfaitement, effectivement, le bilan final et même le bilan intermédiaire, à mi-parcours, qui se fait du coup vraiment à mi-parcours de la mission de service civique du jeune. Et on commence déjà à relever les premières compétences acquises et connaissances.
D'accord. Et vous avez beaucoup de sollicitations des jeunes ou c'est vous qui partez souvent vers les jeunes pour les inciter à s'engager ?
Donc, c'est plutôt les jeunes qui viennent vers nous parce que du coup, on est sur la plateforme servicecivique.gouv et les jeunes, ils candidatent directement sur la plateforme. Donc souvent c'est eux qui viennent vers nous ou aussi c'est les conseillers mission locale qui positionnent les jeunes sur nos réunions d'information parce qu'on a des réunions tous les mercredis matin et ils positionnent nos jeunes ou parfois on participe aussi au forum, donc c'est nous qui allons entre guillemets vers les jeunes, donc on participe aussi à certains forums pour essayer de recruter aussi des jeunes nous de notre côté.
Et quel est l'avantage de s'engager en service civique ?
Avoir une première expérience professionnelle, développer aussi son réseau. Ça, je pense que c'est les deux choses qui sont vraiment importantes. Avoir cette première expérience, pouvoir aussi tester des choses. Des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, il y a des projets qui ne peuvent pas aboutir. Mais au moins, ils ont testé, ils ont mis en place des activités. Et après, effectivement, c'est aussi développer son réseau professionnel. Donc, rencontrer de nouveaux partenaires, de nouvelles associations pour la suite de parcours. Si voilà, il y a un projet d'alternance, bah, peut-être aussi le jeune pourra rencontrer un futur employeur. Donc je dirais que c'est les deux principaux avantages pour le jeune.
D'accord. Et tout à l'heure, il y a un jeune ici que j'ai rencontré qui est justement engagé en service civique qui me disait l'inconvénient, c'est que parfois des services civiques se retrouvent en remplacement des salariés alors que l'idée de base, c'est pas ça. Est-ce que vous constatez vraiment cela et qu'est-ce que vous avez à dire ?
Alors nous déjà, on met en place des fiches mission et on rencontre aussi en amont du coup les tuteurs de mission pour être sûr que ça ressemble pas à du salariat parce que parfois, bah, y a certaines structures qui viennent vers nous et qui veulent plutôt faire des missions en lien avec la communication ou avec le secrétariat, ou même parfois c'est des demandes des jeunes, et du coup on explique bien que voilà, le but du service civique c'est vraiment un entre-deux entre l'engagement de bénévoles et le salariat, mais ce n'est pas du salariat. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on rencontre les structures en amont, on essaye de les briefer au maximum pour éviter justement cette dérive-là, mais effectivement on connaît même des partenaires qui ont été déjà dans cette situation, ça arrive, mais nous ça reste quand même assez à la marge.
Et si le jeune a le moindre doute sur une activité qu'on lui propose et il se dit ça ressemble à un peu voilà, de l'emploi dissimulé, il nous appelle et dans ce cas-là, vu que on fait de l'intermédiation, donc on est entre le jeune et l'association et on peut aussi faire voilà, des médiations et remettre les choses au clair et se dire bon bah là effectivement on est sur une activité qui est plutôt rattachée au métier de la communication par exemple, donc attention, faut pas que ce soit le cœur de mission.
D'accord. Et quels sont les critères pour recruter un service civique? Est-ce que c'est basé sur ses compétences ou alors c'est juste sur sa motivation? Quels sont les critères?
Alors du coup, on se base uniquement sur la motivation. C'est notre... c'est ce qu'on dit à chaque fois, à chaque réunion. Le service civique, on se base sur les savoir-être et pas sur les savoir-faire. On ne se base pas sur un diplôme, il n'y a aucun diplôme qui est requis. C'est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, 25 ans âge plein. Et on se base vraiment sur la motivation. Donc peu importe si le jeune veut postuler à une mission en lien avec l'environnement et qu'il n'a aucune expérience environnementale, justement, le but, c'est qu'il découvre à travers le service civique. Donc on se base vraiment sur les savoir-être et la motivation.
Et on ne leur demande donc pas leur CV au moment d'intégrer la mission.
En tout cas, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à mes questions.
De rien.
Le service civique, comme on l'a dit, est ouvert aux jeunes. Et si on les écoutait? Léo, Alexis et Nora, trois jeunes actuellement en service civique, ont pu discuter avec Souleyman à propos de leur expérience et de leur vision du service civique.
Alors, je suis Léo Vaillant, je viens de terminer mon BUT MMI. J'habite à Vauban depuis un mois. Avant, j'habitais en Ile-de-France.
D'accord.
À côté de Trappes, entre Trappes et Versailles. Je suis en service civique à la Ligue des droits de l'homme. Donc, je suis au stand là.
D'accord.
À côté.
D'accord.
Et du coup, c'est la présidente de l'association qui m'a demandé de venir, comme c'est dans le thème.
D'accord. Et que penses-tu du service civique?
Je dirais que c'est mitigé. Il y a une partie que je trouve intéressante, qui est le fait qu'on puisse s'engager librement dans une cause qui nous tient à cœur. Après, il y a un. Je pense qu'il y a un côté négatif qui est aussi le fait que le service civique c'est aussi utilisé dans des parties de la fonction publique pour remplacer des emplois, alors que ce qu'on est payé c'est juste le salaire, les indemnités d'un stage quoi.
Et à la base l'idée du service civique c'était pas forcément aussi que des volontaires puissent remplacer justement des salariés.
Bah c'est le problème et c'est ce qui se passe. Et en plus pour des associations qui n'ont pas forcément d'argent, du coup c'est le serpent qui se mord la queue, sans ça ils peuvent plus travailler, bon c'est compliqué.
D'accord. Et quel conseil tu donnerais, par exemple, à d'autres jeunes qui souhaitent s'engager dans un projet de service civique? Parce qu'il y a des côtés positifs, il y a aussi un côté négatif, justement.
Ouais. Qu'est-ce que je conseillerais, c'est de bien s'informer, de le faire dans un sujet qu'on apprécie. Et de regarder l'association dans laquelle on le fait. Quoi. Moi, ce que je trouve intéressant dans tous ces projets, dans des associations militantes contre le racisme, par exemple pour la Ligue des droits de l'homme, contre les discriminations en général, et pour vous dans la radio et dans plein d'autres projets, c'est qu'en fait, on prouve que... on dit souvent que les gens sont fainéants, mais en fait, on voit que dans ces cadres-là, les gens ont envie de travailler, de s'investir, de faire plein de trucs, sans même être payés. Donc... c'est intéressant parce que les gens peuvent prendre en compétence, peut-être un jour travailler dans ça, et aussi s'amuser, pouvoir travailler dans ce qu'on aime.
Ouais, découvrir leur voie en quelque sorte. Ouais. Et toi, étant à la Ligue des droits de l'homme, si j'ai bien compris, quelles sont tes missions en tant que service civique?
Alors, il y a une partie technique, c'est la communication, donc faire des flyers, des affiches. Là, ce que je suis en train de faire, c'est regarder le site internet, comment le modifier, parce que... C'est un peu anarchique, si vous allez le voir, sur la section de Lille, de la Ligue des droits de l'homme. Et après, il y a toutes les parties sur les missions de l'association. Donc par exemple, je participe aux permanences des accès aux droits. Donc en gros, les gens ont le droit de venir à la MRF, à FIV, par rapport à un problème. Donc c'est par rapport à tous les droits en général. Mais de fait, c'est plutôt les personnes étrangères qui ont des problèmes de régularité sur le territoire, par exemple, qui viennent demander de l'aide pour savoir comment faire pour pouvoir se régulariser, pour pouvoir travailler en France.
D'accord.
Et sinon, ce que je fais, il y a aussi le gros événement qui arrive en décembre au sein de la Ligue des droits de l'homme, qui est le Forum des libertés, et qui est cette année autour des sujets des discriminations, et où je travaille beaucoup pour faire les affiches, tout ça... pour regarder les événements qu'on va faire le 10 décembre. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler juste, tu es dans quelle formation scolaire, au fait, dans quel cursus?
Là, j'ai terminé ma licence. C'est un BUT MMI, donc métier multimédia et Internet. Ouais. En gros, c'est une formation en IUT. autour des métiers de la communication, donc du graphisme, mais aussi de la programmation, des trucs d'audiovisuel, tout ça.
Moi, c'est Alexis, je suis en service civique à la mission locale de Lille. Je suis responsable du pôle vidéo et podcast dans le journal Regard Jeune.
Bonjour, moi c'est Nora, je suis à la mission locale de Lille en service civique et je suis responsable du pôle journal de Regard Jeune.
Aujourd'hui, c'est une journée en fait sur l'éducation populaire et aussi sur le service civique. Mais en quoi le service civique a un avantage pour les jeunes aujourd'hui ?
Alors, le service civique, déjà, c'est assez unique parce que on peut en faire qu'un seul dans toute sa vie, donc faut bien choisir sa mission. Mais c'est 25 heures par semaine, donc déjà c'est un emploi du temps assez léger, ce qui permet de faire d'autres choses à côté. Ça permet aussi de reprendre confiance en soi si on ne l'a pas forcément, ou ça permet d'ouvrir de nouvelles portes si jamais un jeune est coincé par exemple dans sa vie pro ou perso, ça peut l'aider aussi sur ce côté-là.
Je rajouterais à cette belle réponse que c'est une belle forme d'expérience, qu'on ait des compétences ou pas. Je trouve que c'est bien que ça arrive en début d'études ou même pendant les études ou en année de césure. C'est vraiment une forme d'engagement citoyenne où on se donne de nous et on reçoit aussi une forme d'apprentissage.
Et quel rôle jouent les volontaires en service civique dans les projets d'éducation populaire ?
Avant tout, je dirais que nous sommes là pour accompagner. On accompagne et on aide.
Donc nous, on est chez Regard Jeune, donc c'est un journal qui est entièrement rédigé par des jeunes. Et du coup, on fait beaucoup de choses en rapport avec les médias, l'éducation aux médias. Là, par exemple, on a fait un atelier sur les fake news, donc les sensibiliser sur qu'est-ce que c'est les fake news. Il y en a encore aujourd'hui, mais ils ne sont pas forcément au courant. Les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi important de leur expliquer, de faire attention à ce qu'ils lisent. Voilà, on est amené à faire plusieurs ateliers de ce genre. Que ça soit totalement autre chose. Par exemple, reprendre un petit peu des films ou les analyser, se poser des bonnes questions plutôt que simplement les consommer. Enfin voilà, on est aussi là pour apprendre aux jeunes tout en apprenant d'eux aussi, parce qu'ils ont forcément un vécu à la mission locale un peu dur des fois, que ce soit décrochage scolaire ou
problèmes familiaux,
ouais. Et donc du coup, ils ont quand même une force dans leur proposition qui n'est pas à prendre à la légère. Et nous, on est juste là pour le plaisir des jeunes. Ils viennent s'ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, ils ne viennent pas. On se base vraiment sur le plaisir, sur leur envie à eux. Dans le journal, c'est eux qui ont envie d'écrire des articles, c'est eux qui font les dessins, c'est eux qui font les photos. On a aussi une chaîne YouTube, c'est eux qui proposent les idées, c'est eux qui tiennent la caméra. Nous, on est juste là pour les aider à réaliser leur projet, en fait. C'est des jeunes qui n'ont pas forcément l'opportunité ou les moyens de faire les projets chez eux, qui du coup peuvent le faire et avec nous et avec d'autres jeunes qui eux aussi n'ont pas forcément non plus de connaissances. Je parle en termes de personnes, il n'y a pas forcément de personnes dans leur entourage qui peut les aider dans leur projet. Du coup, nous on est là aussi pour ça, quoi.
Notre slogan, c'est tu as les idées et on a le matos. C'est vraiment ça, parce que même si, enfin, ils peuvent avoir des idées, mais ils n'ont pas les appareils techniques pour les aider, donc on est là pour ça. Et aussi, outre le fait qu'ils n'aient pas forcément de compétences ou d'expérience dans le journalisme, dans la vidéo, on est vraiment là pour les accompagner.
Léo, le jeune en service civique que nous venons d'entendre, effectue sa mission à la Ligue des droits de l'homme. Mais connaissez-vous cette association ? Avec Jeanne, présidente de la section lilloise de l'association, nous avons échangé à propos de la Ligue des droits de l'homme. Je vous laisse écouter.
Je m'appelle Jeanne Lagarde, je suis présidente de la section lilloise de la Ligue des droits de l'homme. Donc au niveau de la section lilloise, donc la LDH, c'est une association qui est nationale. Et on est divisé en sections selon soit les régions, soit les grandes métropoles. Et au sein de la section de Lille, on est là pour la défense de toutes et de tous, pour tous les droits fondamentaux et partout. Donc on est investi sur un grand nombre de sujets, sur tous les droits fondamentaux. Donc ça peut aller du droit à l'international jusqu'au droit au logement à échelle locale, les droits économiques et sociaux. On s'est beaucoup investi sur la réforme des retraites l'année dernière. On est aussi sur le droit et les libertés publiques, donc on a un observatoire des violences policières par exemple, comme d'autres sections partout en France. Et on fait aussi à échelle locale des permanences d'accès aux droits, donc on fait surtout de l'accompagnement en droit des étrangers pour des personnes qui sont en situation délicate au niveau administratif. qui ont, avec les procédures de dématérialisation au niveau de la préfecture, on les accompagne pour qu'ils aient moins d'embûches en fait à demander leur titre ou des choses comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Donc on a plusieurs. En fait, on fonctionne par groupe de travail. Et chaque groupe de travail a donc une thématique propre. Donc ça va être le droit, là donc le groupe de travail environnement. Le groupe de travail par exemple éducation populaire et sensibilisation, où là on intervient dans les écoles, les collèges, les centres sociaux, les centres de formation. Il n'y a pas vraiment un âge précis pour le public auprès duquel on intervient, et on y va pour sensibiliser sur justement les droits, tout ce qui est discrimination, etc.
Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut vous retrouver déjà?
Alors donc nous on a un local donc de la section lilloise, donc qui est situé 5 rue de Saint-Omer à Lille. Donc c'est dans le quartier Vauban, pas très loin des stations Port de Lille et Cormontaigne. Et sinon on est assez présent sur les réseaux sociaux. Donc il y a le compte Instagram, il y a le compte X, il y a le compte Facebook qui sont quotidiennement ou alors très très régulièrement alimentés. Et on a aussi un site donc de la section. Qui est en train d'être remis à jour par notre incroyable service civique Léo. Donc là, il est encore en remasterisation, mais c'est aussi un endroit, enfin une interface où vous pouvez trouver plein d'infos.
Ok, et donc là, aujourd'hui, vous proposez des offres de service civique ?
Alors là, actuellement, non, parce qu'en fait, nous, on a deux postes à pourvoir en service civique chaque année, souvent qui s'étendent de septembre au mois de mai. Et donc là, les deux postes sont pour l'instant promus. Mais on fait aussi de la com pour des gens qui seraient potentiellement intéressés pour septembre prochain, sachant que les recrutements, on essaye de les faire avant la pause estivale, donc courant du mois de juin. C'est la lettre mensuelle, donc c'est pareil, c'est là il y a un groupe de travail lettres, donc qui retrace un peu l'actualité au niveau lillois et national, et aussi sur nos actions qu'on fait, donc soit nous tout seuls en tant que LDH, soit aussi en partenariat avec d'autres assos ou d'autres structures. Donc c'est un peu la newsletter qu'on va essayer aussi de mettre un peu au goût du jour sur les réseaux sociaux pour faire un truc moins lourd et peut-être plus hebdomadaire ou bimensuel avec des formats un peu moins texte. Ouais. Mais comme on a aussi pas mal de personnes au sein des adhérents et militants qui aiment bien le format papier, on garde quand même ce côté-là, lettre papier.
Ok. C'est qui les partenaires dont vous avez parlé ?
Au niveau des assos,
ouais.
En fait, en fonction de la thématique sur laquelle on veut s'engager sur un événement plus ou moins précis, on peut être en relation avec plein d'assos au niveau local ou même national. On a fait énormément d'actions avec l'association qui s'appelle Amitié Lille-Naplouse. Donc c'est une association de jumelage donc entre Lille et Naplouse en Cisjordanie, et avec le conflit qui se passe en Palestine, on s'est vachement, on les a beaucoup soutenus, et donc on a fait des soirées caritatives. On peut aussi être en faire des choses avec Greenpeace Lille, avec Nous Toutes pour le GT genre, égalité des genres. On peut faire des choses avec SOS Racisme, enfin voilà. En fait, on vient parfois aussi en accompagnement d'autres assos pour être co-signataire ou co-organisateur, mais on ne veut pas faire comme nous, on est en fait une asso généraliste, on ne veut pas faire des choses moins bien que ce que d'autres assos générales font déjà aussi très bien, comme par exemple la CIMAD. On est énormément aussi avec eux au niveau de la défense du droit des étrangers, qui eux sont vraiment spécialisés là-dedans. Et nous, on vient en appui par exemple nos permanences d'accès au droit. Mais on est moins spécialisés qu'eux. Donc il y a des fois on est en partenariat avec eux pour certains événements ou certaines conférences ou des choses comme ça.
Est-ce que c'est compliqué d'être votre asso en France en 2024 avec tout ce qui se passe, les dernières élections, etc.
Suite aux dernières élections, le gouvernement maintenant en place, c'est vrai qu'il nous handicape un petit peu parce que forcément les idées qu'on défend sont pas soutenues par la majorité gouvernementale. Mais ce qui ne nous empêche pas de nous... Alors ça nous fait encore faire plus d'actions parce qu'on est encore plus résignés. Et donc il faut bien préciser que la LDH, c'est une asso qui est militante. Donc on n'est pas des simples bénévoles, on est aussi des militants. Donc on a quand même des convictions. Pour la défense des droits fondamentaux, il faut forcément avoir certaines convictions. Et de ce fait, nous, on met quand même un point d'honneur à dire que ce n'est pas des simples adhérents-adhérentes ou bénévoles. On est aussi des militants-militantes. Et du coup, bah, je dirais qu'on n'est pas réellement en difficulté parce qu'on reste quand même une asso qui est extrêmement, comment dire, connue à l'échelle nationale et même à l'échelle lilloise. Donc, je pense que ça va, mais... par exemple, quand il y a eu Darmanin en 2023, si je ne dis pas de bêtises, qui nous a dit qu'il allait peut-être enlever les subventions à la LDH, on a eu un peu peur. Et bon, au final, ça ne s'est pas fait, mais voilà. Il y a des fois où on se dit que forcément, quand on est militant et qu'on défend des idées sociales de partage, d'inclusion, bah, y a des fois où on s'inquiète vraiment sur l'avenir, mais pas forcément de l'asso, surtout de l'avenir général des Français, Françaises. Donc, voilà.
Pour ce forum Fête de l'éducation populaire, toutes les associations ne proposaient pas de service civique. C'est le cas de l'OFCI, Organisation Française de Coopération Internationale. Cette association participe à des projets à dimension internationale avec des séjours Erasmus+. Je me suis entretenue avec Yuri, salarié dans cette association.
Alors moi je m'appelle Yuri Bergoug, je viens de Roubaix, j'ai 32 ans et je travaille pour l'OFCI, l'Organisation Française de la Coopération Internationale, qui est basée dans le quartier de l'Épeule à Roubaix.
Ok, super. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes là? Dites-moi.
Alors aujourd'hui je suis là avec Safia parce qu'on représente notre association et toutes les opportunités qu'on peut offrir aux jeunes, c'est-à-dire partir à l'étranger pendant 7 à 10 jours, pour rencontrer d'autres jeunes européens. Et en fait, c'est une expérience incroyable parce qu'on développe plein de compétences. Par exemple, là derrière vous, vous avez quelqu'un qui est parti en projet avec nous, mais vous ne la verrez pas dans l'émission de radio. Et en fait, c'est l'occasion de développer, par exemple, son anglais, de pratiquer son anglais parce qu'on se retrouve avec plein d'autres jeunes d'Europe qui parlent aussi anglais, ou pas d'ailleurs. Développer d'autres connaissances linguistiques parce que souvent, il y a des Espagnols, des Italiens, mais aussi travailler autour d'un sujet... Par exemple, ça peut être la lutte contre les discriminations, ça peut être le développement du tourisme en zone rurale, la protection de l'environnement, enfin, travailler sur vraiment plein de trucs. Et donc, forcément, c'est une bonne occasion pour les jeunes de partir, surtout que tout est pris en charge par l'Union européenne financièrement. Donc, ils payent pour leur transport, mais c'est remboursé sur présentation des factures. Et tout ce qui est logement et repas, c'est pris en charge par nos partenaires dans chaque pays.
Ok, et comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de ce programme? Enfin, on vient vers qui
Alors, il y a plein d'associations qui proposent le type de projet que nous proposons, mais si vous voulez partir avec l'OFCI, c'est très simple. Vous allez sur ofci.fr, OFCI, Oscar, Foxtrot, Charlie, Idaho.fr, et vous inscrivez sur le site. Vous recevrez une newsletter à chaque fois qu'on a des nouveaux projets, et on a également un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez nous rejoindre, dont vous pourrez trouver le lien d'invitation également dans la newsletter. Et donc, c'est l'occasion d'être informé sur les projets. On en a généralement entre 8 et 13 par an, des projets. Donc, c'est autant d'opportunités de pouvoir partir partout en Europe. Alors, il faut savoir que nous, on travaille dans le cadre du programme Erasmus+, mais on travaille dans le cadre jeunesse. Et en fait, le cadre jeunesse, c'est en dehors de tout ce qui est scolaire. Et donc, on met en place des activités d'éducation populaire dans toutes nos activités, dans tous nos projets. Parce que l'idée, c'est que les jeunes puissent apprendre des choses dans un cadre en dehors du cadre scolaire. Donc on est plutôt dans un cadre horizontal, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de salle de classe avec des... On est là en cercle, on apprend en faisant, on apprend les uns des autres, et c'est ça qui est intéressant. Donc nous on est carrément dans aussi cette recherche d'innovation en éducation, qui est à mon avis l'un des points forts de l'éducation populaire. C'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de vivant et de flexible et de dynamique. Et également, on met en place des activités d'éducation populaire dans le cadre d'un projet Erasmus+, qui s'appelle Next Generation Journalism, qui est un projet de journalisme. Donc on est là avec des jeunes, notamment en particulier des jeunes de missions locales, de plusieurs missions locales de la métropole lilloise, pour qu'ils développent des compétences journalistiques. Donc ça peut être des compétences à l'écrit, à l'oral, de filmer des vidéos, capter du son. Enfin, on travaille vraiment sur tous les aspects du journalisme. Notamment, le dernier atelier, ça tournait autour de la météo. Donc on a créé un capteur, une sorte de station météo avec pour pouvoir capter la température, l'humidité. Et ils ont aussi pu faire, en fait, sur un écran vert, la présentation de la radio régionale, de la météo régionale. Donc c'était également très intéressant pour eux, assez innovant. On essaie vraiment d'innover à chaque atelier, de proposer des choses intéressantes pour les jeunes.
Et là, est-ce que vous avez d'autres projets qui vont arriver, des projets qui vous rendent fiers?
Alors on travaille aussi avec pas mal d'associations au niveau local en partenariat. Et là, on va notamment mettre en place un échange de jeunes avec 50 jeunes qui viennent de partout en Europe du 22 au 30 octobre. Donc ça va arriver très très vite. Et c'est sur la question du bien-être mental. Donc on a vu qu'avec la Covid-19 notamment, il y a beaucoup de jeunes qui ont mal vécu ce moment de leur vie et qui continuent d'avoir des séquelles sur leur quotidien. Donc nous, on souhaite vraiment pouvoir leur permettre de se recentrer sur eux-mêmes, sur leurs émotions, de pouvoir méditer, de pouvoir prendre du temps pour eux. Et voilà, de pouvoir se détendre un peu et remettre de l'ordre dans leur esprit.
Avec Yuri, des ambassadrices Erasmus+, tenaient le stand couvert de drapeaux. Cécile a pu partir à plusieurs reprises avec Erasmus+, et elle va peut-être vous convaincre de sauter le pas.
Je m'appelle Cécile, j'ai 24 ans, je suis infirmière et je suis partie en mobilité Erasmus 3 fois. Et depuis 2 ans, je suis ambassadrice pour l'agence Erasmus.
Ok, est-ce que tu peux nous dire avant tout, c'est quoi être ambassadrice Erasmus ?
Être ambassadrice Erasmus, c'est représenter l'agence à travers différents forums, à travers différents événements, notamment en ce moment lors des Erasmus Day, afin de pouvoir parler des mobilités à l'étranger, en Europe, dans le cadre d'Erasmus.
Ok, et donc tu nous as dit que toi-même, tu es partie plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces voyages ?
Alors la toute première fois, c'est quand j'étais au lycée avec le programme Transalpes qui faisait un échange scolaire entre plusieurs élèves de l'Italie et de la France. Et après, lors de mes études supérieures en tant qu'infirmière, en école d'infirmière, je suis partie 2 fois en mobilité de stage, 1 fois à l'international. Erasmus+, de là où vient le petit plus, et 1 fois en Europe où c'était plus une mobilité de stage et de cours en Suède.
Ok, t'étais partie dans quel pays ?
Suède, Togo et Italie du coup.
Comment tu pourrais vendre le programme Erasmus aux jeunes ? Pourquoi faire un échange Erasmus ?
C'est que du kiff. C'est que du bonus, c'est que du plus, on garde que des souvenirs et une fois qu'on y allait, on oublie les moments de galère, les moments qui peuvent être pénibles, de cours, de révision, on se souvient que des bons moments, des rencontres, de ce qu'on a fait, du pays qu'on a voyagé, la culture, enfin c'est vraiment que des moments incroyables. Donc Erasmus, c'est un programme qui permet d'envoyer tout le monde, en fait c'est à partir de 13 ans et il n'y a pas vraiment de limite d'âge, qu'on soit demandeur d'emploi avec Pôle emploi ou un jeune qui se recherche professionnellement avec des stages, avec possibilité de partir avec la mission locale, des associations comme l'OFCI ou alors dans les études supérieures ou au lycée, collège. Enfin, c'est vraiment ouvert à énormément de profils et tout public. Voilà. Et en plus, si vous faites Erasmus, vous aurez peut-être la possibilité de devenir ambassadrice et de pouvoir vous aussi défendre cette chouette agence et vivre encore plus de belles aventures et de belles expériences.
Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont un peu freinés parfois par la barrière de la langue ?
Eh ben, on était tous très nuls avant de partir et on est tous un peu moins nuls une fois qu'on est là-bas et on revient avec plein de bagages linguistiques où on apprend en fait, enfin, c'est pas tant le vocabulaire qui compte, mais on va parler avec les mains, avec un peu de vocabulaire local, avec un peu de mots d'anglais et en fait, à force, on va quand même créer des belles relations, on va quand même réussir à apprendre un peu plus en anglais et au final, on va être super à l'aise et se débrouiller. C'est vraiment une barrière que nous-mêmes, on se met avant de partir, peut-être au début, et qui très vite elle pète et en fait il n'y a plus de barrière. Quoi.
Notre émission consacrée au Forum de l'éducation populaire arrive à sa fin. Si vous souhaitez réagir à cette émission ou nous soumettre vos idées, contactez-nous au 06 42 73 80 32 par mail à contact@radiomoulin.org. C'était Florine et je vous souhaite une belle journée sur Radio Moulin.
La ligne ouverte, c'est fini.
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 Mais ne soyez pas tristes.
On se retrouve bientôt sur
Radio Moulin.